Chapitre 40. Le ciel ne parvenait pas à se décider. Des nuages de plomb s'amoncelaient sans que la pluie tombe, puis le vent les chassait en une heure pour laisser entrevoir un carré de ciel, avant que d'autres arrivent, toujours aussi menaçants. L'hôtel des enquêteurs français était en plein centre de Cracovie. Pour ce qu'elle en avait aperçu, Ludivine avait découvert une ville ancienne, à l'architecture surprenante. Un riche héritage médiéval, mais aussi néo-gothique, qui alternait avec des façades modernes, entrecoupées d'un ancien tramway, qu'on aurait cru sorti d'un vieux James Bond. Cracovie était bâtie sur une colline, où le château, emblème de la cité, dominait les pics des clochers et les tours des églises, basiliques, cathédrales et autres monuments qui pullulaient tout autour, comme autant de jalons historiques et culturels. Ludivine était parvenue à somnoler un peu dans l'après-midi, avant que Thomas leur fasse livrer les premières traductions en anglais des rapports d'autopsie. Ils se les firent passer de chambre en chambre, Seignon et Michaelis ne s'adressant pas plus la parole que pendant le bref déjeuner qu'ils avaient partagé. Les autopsies ne firent que confirmer ce qu'ils savaient déjà. Ils étaient aux prises avec un psychopathe dont le comportement frisait la psychose dans ses pics de violence. Il perdait le contrôle. Il devenait hystérique. C'était certainement à ce moment-là que les morsures les plus violentes survenaient. Sur l'une des deux victimes, il avait prélevé environ 1 kilo de chair sur la cuisse, qu'on n'avait retrouvé nulle part. Cannibalisme, songea aussitôt Ludivine. La question de sa mâchoire était, là encore, soulevée avec beaucoup d'interrogations quant à sa nature. Beaucoup trop grande pour être humaine. Forme et dents non conformes. Pourtant, la probabilité d'une attaque animale était écartée fermement par le légiste. Morsure trop nette, absence de traces de griffes et de poils. Et Seignon se l'était déjà fait confirmer. Il n'existait aucun animal connu avec une dentition et une gueule pareille. Michaelis avait associé le trouble oral cannibalique à des problèmes possibles de langage. Si la bête avait une telle déformation du visage, il pouvait en effet être inadapté pour s'exprimer normalement. Mais ce type de déformation était obligatoirement répertorié dans un hôpital, chez un dentiste, quelque part. Il ne pouvait avoir grandi sans suivi. Fallait-il insister une fois encore auprès des dentistes et hôpitaux français? Non, ils répondent toujours. On les a déjà relancés. Leur silence signifie qu'il ne s'est pas fait soigner en France. Ludivine espérait beaucoup de la police polonaise. Après tout, l'hypothèse qu'il s'agisse d'un tueur ayant grandi dans cette région faisait sens. Il connaissait la mine, venait d'y passer à l'acte par 2 fois. Il avait pu séjourner quelques semaines dans l'est de la France avant de revenir par chez lui. Les fichiers dentaires du pays allaient les renseigner. Du moins, l'espérait-elle. En fin d'après-midi, elle sortit de sa chambre pour aller se dégourdir les jambes. Elle n'en pouvait plus d'enchaîner les images de corps éventrés ou de penser à Alexis. Ses yeux, son cerveau et son cœur ne pouvaient plus en encaisser davantage. Elle marcha en direction du bar et reconnut la voix de Michaelis dans un recoin. Il parlait étrangement. Le même timbre grave, mais adouci. Avec de la rondeur dans les mots. De la gentillesse. De l'amour. Il était au téléphone, avec un de ses enfants, comprit Ludivine. L'entendre ainsi fut une véritable découverte. Lui, en permanence si froid, si fermé, un bloc aux épaules larges, au torse puissant, les yeux pénétrants, le crâne rasé pouvait se transformer en un père aimant et câlin. Même Michaelis pouvait être affectueux. Ludivine fit comme si elle ne l'avait pas vu. Et s'installa au bar, où elle commanda une bière. Lorsque le criminologue se leva, il la remarqua et lui adressa un signe de tête. Il était différent, plus chaleureux. Elle pouvait presque lire ses émotions sur ses traits, ce qui était une première. Il hésita puis tourna les talons pour remonter vers sa chambre. L'amour de sa famille le transformait. Il le portait. Il était sa base. Son centre névralgique d'humanité. Tout homme, Même la plus noire des âmes devrait avoir cette base solide pour se construire, songea la jeune gendarme. Une famille était un moteur pour conquérir le monde, autant qu'un bunker pour se replier. Ludivine souleva sa bière. La mousse, amère, lui inonda la bouche. Elle n'avait rien de tout cela, elle. Cela expliquait bien des choses dans son mal-être. Elle observa la silhouette trapue de Michaelis qui s'éloignait. Pourquoi avait-il accepté de venir leur prêter main forte? Qu'avait-il à gagner? Il ne prenait pas d'argent, n'en tirerait aucune gloire. Ludivine n'avait aucun doute quant au fait qu'il se contenterait de retourner dans sa montagne aussi vite que possible. Quelle était sa motivation? Il avait accepté de quitter sa tribu pour traquer le mal, de quitter le confort mental des siens pour redescendre dans la fange des fantasmes morbides, de se mettre en danger, de prendre des risques avec son équilibre. Parce que nul ne pouvait explorer les abysses de la psyché meurtrière sans en remonter avec des séquelles. Se mettre à la place du tueur, s'approprier ses fantasmes pour le comprendre et anticiper. Vivre avec ses obsessions sanglantes. Explorer ses failles psychiques. Sonder ses déviances, jour et nuit, pendant plusieurs semaines. Tout cela ne se faisait pas sans en payer le prix. À parcourir tant de ténèbres, on finissait inexorablement par ouvrir la porte aux siennes. Quelle qu'elle soit, à les faire remonter à la surface, car nul être humain n'est totalement exempt de noirceur. Il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. Tous les hommes du monde qui jouaient à disséquer l'âme des pires tueurs finissaient tôt ou tard par devoir affronter leur propre zone d'ombre. Les criminologues, profilers, flics, mais aussi les psys, les romanciers, les médecins. C'était un voyage dont le coût se payait comptant. Michaelis pouvait se reposer sur sa famille pour faire remonter ce qu'il y avait de meilleur en lui. Elle agissait comme un filtre ou lui servait de gilet de sauvetage, tout comme Seignon, qui se plaignait sans cesse de sa femme, mais ne pouvait s'empêcher de l'appeler au moins une fois par jour. Ludivine, elle, n'avait personne. Aucun filtre. Aucune bouée. Elle regarda sa bière avec ironie. « Pardon, ma vieille, » dit-elle. « Je tais-toi, bien sûr. » Thomas passa les chercher à leur hôtel en début de soirée, après avoir insisté pour les emmener dîner dans un restaurant polonais. Ils mangèrent dans un établissement tout en pierre, dans une cave moyenâgeuse, où le policier les força à commander les plats locaux typiques, sans jamais se départir de sa bonhomie. Pas d'humeur, Ludivine toucha à peine à son entrecôte frite dans du miel, et se contenta d'écouter sans parler. Thomas leur exposa sa biographie professionnelle et ses plans de carrière, notamment son ambition à long terme de rejoindre La Haye et Europol. Puis Michaelis, sans transition, l'interrogea en détail sur le premier crime de prostituée commis dans la région par la bête. Thomas s'essuya la bouche longuement avec sa serviette, comme s'il préparait ses lèvres à ce qu'elle devait affronter. Il expliqua en détail ce qu'il savait, répondit à toutes les questions du criminologue, sans que Ludivine ait, au final, le sentiment d'avoir appris quoi que ce soit de nouveau sur le mode opératoire du meurtrier. Il tuait non loin de l'autoroute, mordait, découpait, arrachait, mutilait sans laisser de traces. Pas même une empreinte de pas ou de pneus cette fois-ci. Il apprenait vite à réparer ses erreurs. Il n'y avait que le coup de téléphone passé depuis la villa de Louvciennes sur un cellulaire muni d'une carte SIM prépayée. « Vous avez fait toutes les vérifications avec ce numéro ?» s'obligea-t-elle à demander. « Oui, il n'a servi qu'à cet appel-là. Une carte jetable d'une valeur de 25 zloty, environ 6 de vos euros. À partir du numéro de téléphone, nous avons obtenu le numéro d'IMEI, International Mobile Equipment Identity, par l'opérateur. Le numéro du boîtier, donc. Nous avons demandé à tous les opérateurs si d'autres cartes SIM avaient été utilisées avec ce boîtier. Et hélas, rien du tout. Téléphone neuf, inclus dans un pack, avec une carte prépayée. Et vous avez retrouvé une trace de l'achat? Par le biais du numéro, l'opérateur a réussi à retrouver celui de la carte et à nous donner le point de vente. Mais ce n'est qu'une boutique dans une rue commerçante et la transaction a été payée en liquide. Pas de caméra sur place, nous n'avons rien. Vous avez mis le numéro sur écoute au cas où il l'utiliserait à nouveau?
Bien entendu, mais il ne faut pas se leurrer. S'il est si prudent que ça, la carte SIM, voire le téléphone, sont déjà au fond d'une décharge à l'heure où nous parlons.
Il a pris une carte avec très peu de crédit dessus,
intervint Michaelis.
Il savait déjà que ce serait pour un usage unique. Thomas a raison. Nous n'entendrons plus jamais parler de ce numéro.
Ludivine s'accota à la vieille pierre qui fermait leur alcôve. Les voix de ses camarades s'estompèrent peu à peu. Elles s'éloignèrent à mesure que la jeune femme s'enfonçait dans ses pensées. Elle ne voyait plus comment poursuivre. Elle avait le sentiment désespérant d'avoir exploité toutes les pistes existantes, d'atteindre la limite de ses capacités, et vivait le pire moment pour tout enquêteur. Attendre. Attendre une expertise tardive qui livrerait une information inattendue. Attendre que le tueur se manifeste à nouveau. Peut-être qu'il repasse à l'action et qu'il tue encore en commettant cette fois une erreur. La jeune femme détestait cet immobilisme plus que tout. La sensation insupportable de ne plus servir à rien. Ils terminèrent avec la traditionnelle vodka et rentrèrent se coucher en se demandant s'il n'était pas temps de retourner à Paris. Ici, ils n'avaient rien d'autre à faire. L'enquête était entre de bonnes mains. Ils avaient vu tout ce qu'ils devaient voir. Créer les liens nécessaires avec les forces de l'ordre local. Ce n'était plus de leur ressort. Ludivine s'endormit d'un coup, malgré ses angoisses. L'alcool avait joué son rôle. Elle rouvrit les paupières à 4 heures, moites et frissonnantes. Elle se redressa pour tirer le dessus du lit, puis le repoussa. Elle avait chaud et froid en même temps. Elle n'était pas bien. Une pensée l'avait hantée toute la nuit, sans qu'elle parvienne à se souvenir de laquelle. Ludivine était obsédée par l'enquête. Elle vivait l'enquête, la respirait, la mangeait, et elle en rêvait même. Il ne fallait pas s'étonner si elle était en permanence si fatiguée. Son cerveau ne lâchait jamais prise. Elle le savait, c'était encore à cause des meurtres qu'elle avait si mal dormi. Ce fichu esprit obsédé n'avait pas arrêté d'analyser, de recouper. C'était plus fort qu'elle. Il n'y avait que les médicaments pour l'obliger à couper. Et elle était partie sans somnifère ni calmant. Ludivine soupira au fond de son lit. Elle hésita à mettre la télé. À 7 heures, sur une télévision polonaise, cela risquait de lui donner envie de mourir. Elle n'avait pas emporté de livre non plus. La loose. De quoi avait-elle rêvé? Qu'est-ce qui avait trotté dans un coin de son esprit malade? Au point de l'empêcher d'atteindre le stade profond du sommeil. Une histoire de pays, se souvint-elle d'un coup. Pologne et France. De déplacement. Téléphone, se souvint-elle peu à peu. C'est à cause des téléphones. Celui de la bête? Le coup de fil de Louvciennes? Y avait-il quelque chose qui lui avait échappé et que son inconscient tentait de lui faire comprendre? La localisation? Impossible. Il ne l'utilise plus. Ludivine se souvint alors des dernières prouesses de l'investigation téléphonique. Non seulement les opérateurs mettaient à disposition tous leurs services pour simplifier les enquêtes criminelles, mais ils avaient même lancé un nouveau dispositif d'aide aux policiers et gendarmes. Il suffisait de leur donner un numéro pour avoir en quelques minutes tout l'historique des appels, entrant et sortant, ainsi que, avec un peu de travail, toute la géolocalisation associée. En fonction des bornes activées par le téléphone, les opérateurs pouvaient fournir une zone où l'appareil avait servi, avec les horaires précis. Mieux encore, désormais, il n'était plus nécessaire qu'un abonné utilise son téléphone pour activer une borne. Il suffisait qu'il laisse son appareil allumé, même sans passer ou recevoir le moindre appel, pour que chaque antenne relais enregistre sa position au moment où le téléphone entrait dans sa zone et se connectait automatiquement pour obtenir une couverture réseau. Toutes ces informations s'archivaient dans des bases de données, qui pouvaient être consultées à tout moment par les enquêteurs, sur simple demande officielle. Ce tout nouveau système venait d'être présenté à la gendarmerie, et toute la SR avait été sensibilisée, notamment pour les enquêtes sur les braquages. Tout ce qu'il fallait, c'était connaître le numéro de téléphone d'un suspect. C'était une technologie flambant neuve, jamais utilisée. Les services de police et de gendarmerie la découvraient à peine. Pourquoi repensait-elle à ça en plein milieu de la nuit? Elle n'avait aucun numéro à traquer. Le seul dont il disposait n'avait servi qu'une fois et était à présent probablement perdu au fond d'un ruisseau ou d'un égout.
quand bien même les opérateurs polonais disposeraient du même système, et en partant du principe que le téléphone de la bête avait été jeté sans être éteint, au mieux serait-il capable de localiser la dernière borne où il avait été connecté. Elle couvrait une zone de plusieurs kilomètres carrés. Il serait impossible de passer au peigne fin. Pas pour retrouver un minuscule téléphone. Ludivine se releva d'un bond. Elle n'avait pas de numéro à pister, mais des zones précises où les meurtres avaient été commis. 3 dans l'est de la France, et 2 ici, dans le sud de la Pologne. Si les opérateurs français et polonais pouvaient leur fournir les banques de données de tous les numéros qui avaient accroché les bornes proches des scènes de crime à l'heure des meurtres, alors, par recoupement, Ludivine pourrait identifier un numéro qui ressortait à chaque fois. La bête, ou étoile E, avait forcément un téléphone portable personnel, glissé dans une poche, au cas où, qu'ils n'utilisaient que pour leur vie quotidienne, loin des crimes. Un numéro qui s'était automatiquement connecté à l'antenne relais la plus proche des crimes à 5 reprises. Il pouvait y avoir des dizaines de milliers de numéros dans chacun de ces secteurs, mais un seul avait été activé à ces 5 points particuliers aux heures des meurtres.